Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 9 septembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 113 000 $, un Ether 4360 et on commence à avoir une petite progression des plus 4, plus 5, plus 6 du côté du top 10, donc c'est encourageant. La performance du moment continue d'abonder du côté d'Hyperliquid, $55 plus 9% sur les dernières 24 heures qui se hisse juste sous Chainlink. Chainlink est à 16 milliards de capitalisation, on a un Hyperliquid désormais à 15 milliards. Donc ça continue de pousser et c'est un des projets qui aura été les plus novateurs et les plus porteurs de ce cycle. Ethena n'est pas en reste, plus 10% sur les dernières 24 heures, 6 milliards de capitalisation aux portes du top 20. Le Worldcoin plus 52%, là aussi grosse poussée cette dernière semaine, quasi plus d'un fois deux. Plus 10% pour Memcore qui se hisse dans le top 35, je sais même pas ce que c'est, 3,3 milliards de cap à $2, vous me direz dans les commentaires pour les aficionados des Memcoins. On a plus Jeep Penguins également, plus 11 à la 43e place. Et on voit qu'on est désormais pour le top 50 autour de 2 milliards de cap. Donc on a une rotation qui commence doucement mais sûrement du côté des altcoins. C'est peut-être enfin notre fenêtre de bonheur pour l'automne. Entre mi-septembre et mi-octobre, on espère vivement bien entendu que tout ça va pouvoir se réaliser. Le Crypto Fear and Greed 48 sur la neutralité, tandis que le Bitcoin, s'il s'affranchit des 113 000, et bien dans un premier temps, c'est retour à 115, voire 117 grossièrement, le milieu du range et ensuite le haut du range, comme vous le savez, entre 120-122 et quasi $125 000 que constitue aujourd'hui l'ATH. Au niveau des news, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi un peu hier au niveau des réseaux sociaux, deux incidents, donc un premier qui est majeur par rapport à l'industrie puisque c'était le CTO de Ledger qui révélait qu'il y avait eu des milliards de téléchargements d'un fichier ou de plusieurs fichiers d'ailleurs qui auraient été vérolé et corrompu, ce qui aurait permis lors de signature, que ça soit pour votre Rabi, pour votre MetaMask, même votre Ledger, de remplacer à la volée l'adresse par une adresse qui correspond plus ou moins à celle sur laquelle vous étiez en train d'envoyer. Et malheureusement, bien entendu, ça a envoyé vers une fausse adresse. Alors le feu a l'air d'avoir été coupé en amont, puisqu'il y a à peine $66 qui ont été détournés via ce motif. Mais ça n'est pas sans rappeler qu'aujourd'hui, eh bien, cette industrie est encore bien trop vulnérable sur une surface d'attaque quasi infinie en ligne. Le risque de se faire détrousser, même quand on pense avoir tout sécurisé, est omniprésent. Et dans la soirée, il y a également Swissborg, qu'au travers de la stratégie Earn sur Solana, volé 41 millions, donc 193 000 Solana. Ça n'est pas de leur ressort, c'était le prestataire Kiln, qui malheureusement, via un défaut d'API, a permis apparemment cette brèche. Donc pour l'instant, on manque un peu de profondeur. Les fonds de Swissborg ne sont pas à risque et ils ont pas mal communiqué, donc n'hésitez pas à aller voir, que ça soit du côté du CEO ou directement du Twitter de Swissborg pour avoir un peu plus d'informations. Les personnes qui auraient été lésées vis-à-vis de ces 40 millions en Solana qui étaient dans le Earn, donc en staking, vont être remboursées intégralement par le fonds d'assurance de Swissborg, donc pas de soucis à l'horizon en tout cas pour l'instant. Et par rapport à Swissborg en tant que tel, bien entendu, c'est quelque chose qui a le mérite de nous rappeler que même quand nous, on utilise les protocoles, le staking et tout ce qui va bien, il y a toujours un risque, bien entendu, à partir du moment où on vient chercher un rendement. Et le risque, que ça soit de smart contract, que ça soit comme ça de piratage à grande échelle, ou que ça soit tout simplement un défaut d'API ou que sais-je, on voit que là, une fois de plus, eh bien, il reste assez présent au quotidien. En Arabie Wallet, qui disent qu'ils n'ont pas été impactés puisqu'ils vérifient minutieusement chaque paquet et chaque version avant de les pousser. Donc peut-être un mal pour un bien aussi ici, avec un Rabi qui n'est pas pressé de pousser les dernières versions et qui apparemment a été hors de portée, en tout cas pour le court terme. Ceci étant dit, ils ont réagi un peu à retardement, donc une fois que tout est sorti, c'est peut-être un peu plus facile de démêler tout ça. Journal du Coin avec les Whales Bitcoin qui ont vendu 115 000 BTC en août pour près de 13 milliards, marquant leur plus grosse vente depuis mai 2022. Donc là aussi, on a peut-être un signal avant-coureur, et bien que la distribution est bel et bien en cours de la part des très très gros portefeuilles, et que si dernière jambe baissière il y a, que ça soit pour Bitcoin ou pour les altcoins autour de l'automne, fin d'année, allez maximum début 2026 pour ceux qui disent que le cycle est cassé et qu'on ira peut-être un peu plus loin, il faudra quand même savoir se payer et prendre ses profits au bon endroit et au bon moment. Paolo Arduano, qui est désormais le CEO de Tether, si je dis pas de bêtises, il était CTO avant et je pense qu'il est CEO, si voilà, je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. Donc il est CEO plus CTO, ça fait pas mal de postes. Et donc on a Tether qui a ajouté sur les 12 derniers mois plus que les 3 meilleurs ETF combinés en termes de BTC détenus. Et c'est exactement ce dont on discutait dans l'émission d'hier. Et aujourd'hui, Tether, c'est une machine à cash. C'est des stablecoins qui sont directement adossés à la fois au dollar, mais surtout avec des placements sur les bonds du Trésor américain qui leur rapportent tous les mois. Je ne sais pas s'ils sont positionnés sur du court, du moyen ou du long terme, mais grossièrement, qu'on prenne le court ou qu'on prenne le long terme, on est entre 3 points, 3 points et demi à autour de 5%, on l'a vu pour le 30 ans actuellement. Et cette immensité de cash qui leur tombe dans les bras trimestriellement, bien entendu, ils en font quelque chose, ils achètent du Bitcoin en priorité et un peu d'or, et ils peuvent continuer, a fortiori, tout simplement continuer d'investir dans leur propre activité. Donc vraiment, c'est une machine inarrêtable, et il y a un vrai sujet en ce moment autour des stablecoins vis-à-vis des États-Unis. MicroStrategy qui commence à prendre la pente glissante aussi, c'était relevé par Bob Lucas. Alexandre Baradez qui met en avant que le DAX est favorisé par rapport à l'Allemagne et sur cette instabilité chronique, je ne vais pas rentrer une fois de plus dans la politique française avec un gouvernement qui vient de sauter à nouveau à seulement 24-48 heures du fameux blocage du 10 septembre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, d'un point de vue purement boursier, comme on peut le voir ici sur ce graphique, eh bien, on a le DAX, l'Allemagne, qui est plus robuste en effet que la France, ce qui semble logique au vu de cette instabilité. Et quand on questionne un peu l'intelligence artificielle, même en prenant des échelles de 10-20 ans, elle n'a pas l'air super enthousiaste sur la zone EU en termes d'investissement pour des ETF ou des trucs dans ce style, privilégiant la plupart du temps les États-Unis. Mais peut-être que ça pourrait changer dans les prochaines années. Et comme on l'a vu lors de l'analyse de patrimoine avec Valentin et Marc, il y a également à ne pas sous-estimer les marchés émergents et notamment l'Asie. Et d'ailleurs, vous retrouverez la prochaine analyse de patrimoine dès demain. Et après-demain, vous aurez également le retour de On-Chain Sapiens qui nous donnera donc toutes les datas pour le court et moyen terme au niveau de l'analyse on-chain. On a également le silver qui pourrait suivre le gold avec un nouveau point haut assez long terme ici, puisque la dernière fois qu'on s'est fait repousser à deux reprises sur cette zone, c'était en 1980 suivi de autour de 2010, donc 41-42 dollars, et on rentre en price discovery par la suite autour de 48-49 pour le silver, donc probablement une très belle zone également à prendre. Après, on reste déjà suracheté, etc. Donc c'est pour les traders de breakout, on va dire. Robinhood également qui vient de rentrer dans le S&P 500 et qui est passé donc de 95 dollars à 113 dollars en moins de 10 jours, donc très très belle progression. Amazon qui s'apprêterait à nous faire un breakout sur ta séance, c'est plutôt clean également. Et enfin, on revient donc aux informations de la dernière fois avec les termes de volume recherche Google Bitcoin associés qui ont chuté à leur plus bas depuis octobre 2024. Donc on sent en ce moment que c'est pas les particuliers qui sont en train de réveiller malheureusement le marché crypto, et on va voir donc ce que ça pourrait donner sur cet automne avec pour l'instant un mois de septembre malgré tout qui n'est pas si horrible que ça. Le crypto total 3870 milliards, on a un ATH comme vous le savez aujourd'hui autour de 4160. On est plutôt pas si mal orienté à court terme, si ce n'est que le MACD va croiser, donc perte de momentum malgré tout, c'est le moment de se réveiller puisque quand on regarde comme ça, les dernières fois qu'on a croisé relativement haut, c'était mi-mai 2021, c'était fin novembre 2021. On a eu un faux signal ici autour de mai 2023, mais on était plutôt sur un bottom en devenir. Là, on avait fait un kiss death, j'ai envie de dire, fin janvier 2024, où juste les moyennes mobiles se sont touchées et derrière, on est reparti. On espère vivement qu'on va faire ça. La dernière itération, c'était avril 2024 et la toute dernière, autour de décembre-janvier 2025. Et à chaque fois, quasi 8 fois sur 9, on a baissé derrière à partir du moment où sur une échelle hebdomadaire comme ça, le MACD a croisé à la baisse. Donc attention, l'automne et surtout ce mois de septembre est loin d'être terminé. Le crypto total 2 des alt, alors là, c'est un peu bizarre et c'est là où en ce moment, on a des signaux un peu contraires. On a la sensation que les alt ont envie en ce moment, en tout cas, de raccrocher ce train et de se propulser au-dessus de cette zone critique des 1600 à 1710 milliards que constitue l'ATH de 2021. À partir du moment où on pète cette zone, on rentre en price discovery, et bien entendu qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra arrêter le déferlement qui viendra rentrer du côté des altcoins. Donc, Je mets toujours pas la charrue avant les bœufs, pas d'alt season garanti, mais là on a quand même un chart au niveau du Crypto Total 2 qui est loin d'être complètement dégueulasse. Et c'est totalement corroboré par le Crypto Total 3, donc il exclut Bitcoin et Ether. On est sur la dernière zone de confluence et à partir du moment donc où on cassera cette zone qui est comprise entre 1100 et 1114 milliards, allez pour pas dire 1115, eh bien on aura une accélération également avec un premier FIBO qui nous amènerait autour de 1500 milliards, ce qui ferait pour ce Crypto Total 3 excluant Bitcoin et Ether une accélération d'environ une quarantaine de pourcents si effectivement on venait à avoir une alt season cet automne, ce qui pour l'instant, chartistement parlant, semble de l'ordre du possible, mais voilà, il va falloir aussi surveiller que le fait que Bitcoin nous fasse pas une carabistouille, et pour l'instant à court terme, il nous faut absolument reprendre sur l'hebdomadaire, donc c'est dès cette semaine, on est à peine mardi, c'est un peu trop tôt, mais il nous faut absolument clôturer la semaine au-dessus de cette zone des fameux 113 000 $. Ether est en train de backtester sa zone de sortie qu'il a travaillé très longuement puisqu'on a mis de mars 2024 à août 2025 à son extirper de la zone des 4 000 $, 4 200 $. Donc pour l'instant, c'est plutôt propre. Au plus longtemps, on passe du temps entre 4 000 et 5 000 au plus et au mieux, le breakout pourra être suivi et on gagne de l'énergie. C'est un peu comme un ressort qu'on est en train de tendre. Au niveau des métaux précieux, on a le palladium qui peut-être également pourrait faire un office de rattrapage vis-à-vis du silver et du gold qui eux-mêmes sont pas mal partis. Le CAC 40 ce matin n'a pas l'air en déroute contrairement à ce qu'on nous annonçait, plus 0,78% à suivre hein, puisque bien entendu il va y avoir des rebondissements vis-à-vis de ce nouveau gouvernement. Les taux qui continuent de reprendre des plus 0,50, plus 0,80 etc. pour le court et le long terme. Toujours pareil, hein, c'est le titre de l'émission de hier. On a un gold en ATH, on a le marché crypto qui est pas très loin de son ATH au travers de Bitcoin. On a le S&P 500 qui lui-même est en ATH. Il y a absolument quasi tout qui est en ATH, mis à part le dollar qui lui est en train un peu de s'éclater au sol. Et encore ça, ça peut se discuter. Peut-être qu'on va avoir un rebond en 2026 du fameux dollar. Mais bon, en ce moment, il y a absolument tout qui est sur des points hauts. Le Nasdaq, pareil. Et on se demande qui est en train de se mentir puisque bah, c'est un peu des antinomies quand on est en train d'avoir un gold en bull run et que de l'autre côté, on a aussi une tech qui est fortement portée par l'IA, par Nvidia et consorts et qui continue de caracoler en tête avec une économie qui, on le voit au niveau de l'emploi, de la stagflation potentielle des États-Unis est en train de ralentir, il y a forcément quelqu'un au bout d'un moment qui va rencontrer un mur. D'ailleurs, le gold, hein, après cette petite contraction, ça y est, c'est parti, hein, 3 643 $ l'once. Donc c'est exactement ce qu'on voudrait voir au niveau de Bitcoin, c'est-à-dire un faux signal de croisement pour le MACD et reprendre un petit peu d'énergie, repartir ensuite. Mais pour l'instant, comme on l'a vu historiquement, à partir du moment où le MACD croise sur des grands time frames pour BTC en général, c'est pas super réjouissant pour un horizon court terme. Un exemple de truc sur lequel je ne rentrerai pas maintenant, bon, d'autant plus qu'on s'était positionné à l'époque quand on était encore à plat complètement en mode range à la Chainlink, ceux qui ont la référence, voilà, vous saurez de quoi on parle. Derrière, on a un Robinhood aujourd'hui qui est en train, avec un MACD qui est pas très loin de croiser ici, bon, on a un histogramme qui se reprend, on a un RSI qui est en surachat, etc. Autour de 117-118 $, ça c'est quelque chose qu'il faudra acheter beaucoup plus bas. Ce beaucoup plus bas, on l'a déjà eu autour de avril 2025 puisqu'on était à 30 $, on est aujourd'hui autour de 120. C'est une action comme Coinbase, comme Circle et comme bon nombre d'autres que je surveillerai bien entendu lorsque bear market ou non il y aura, mais lorsqu'il y aura à minima une baisse de moins 20% généralisée, et c'est des actions qui pour le long terme pourront être intéressantes et on voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de volumes qui sont échangés du côté de Robinhood. On avait Take-Two aussi qui repart pour la pré-spéculation autour de GTA 6. Ça, on l'avait donné sur la chaîne au moment même de l'introduction donc, de cette annonce pour GTA 6. On était à 130 $. On est aujourd'hui autour de 250 $. Très belle progression. Et il y a quelques personnes qui nous ont remercié pour Take-Two dans les commentaires. Comme d'habitude, on n'est pas là pour dire voilà, on a fait mieux qu'un tel ou je ne sais quoi. Mais petit à petit, c'est plaisant aussi de se dire que le mal qu'on a eu à comprendre et anticiper et avec cette volatilité complètement monstre sur le marché crypto, petit à petit, on arrive un peu plus et un peu mieux à le lire du côté des actions qui, elles, comme vous le voyez, ont aussi de la volatilité ces dernières années, mais la plupart du temps réagissent de façon un peu plus correcte par rapport à la fois à la volatilité, au support, aux résistances. On a un truc qui, d'un point de vue fondamental, en plus ici, avec l'arrivée de GTA 6, pouvait se défendre. Donc ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Ça se passe pas toujours bien, bien entendu. Hein. Il y a pour chaque investissement une prise de risque, mais aujourd'hui je suis plutôt content petit à petit de la façon dont on mène nos affaires autour de cette aventure d'ECM qui très certainement d'ici cette fin d'année va encore évoluer d'un large cap pour le coup, et vous le voyez notamment au niveau du contenu qui petit à petit est en train d'évoluer au niveau de la profondeur et de la granularité de ce qu'on est à même de vous proposer. Et je voulais vous montrer 2-3 trucs au niveau des altcoins, mais surtout tout à l'heure c'est AVAX qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé ma watchlist. On avait un grand W ici avec une toute petite contraction qui est en train de se faire juste sous le pas de tir des 26$. Donc clairement AVAX ici a un chart qui est plutôt sexy pour le coup, il faut le dire. Et en gros quand on regarde au niveau de la watchlist, il y a des alts, pas mal d'alts qui petit à petit sont en train de ressembler à ça. Alors il y en a qui sont beaucoup trop dégradés, sur lesquels j'irai clairement pas m'exposer, mais aujourd'hui là par rapport à un trade, si je devais prendre un trade à court terme, ben on a quelque chose où on peut se dire que sous les 20$ ici, voilà, on a notre invalidation, ou pour ceux qui vraiment voudraient une invalidation lointaine, on se met autour de 15$, mais ça fait un delta qui est énorme, donc on va dire plutôt voilà, entre 20 et 22 pour un stop potentiel. 26 en cas de breakout, on peut jouer à minima le retour sur le milieu de range supérieur à 37, et le haut de range quelque part entre 55 et 65$. Donc clairement, on a quelque chose qui ici peut paraître intéressant, et c'est pareil pour Chainlink, c'est pareil pour d'autres. Petit à petit, on est quand même sur des contractions de prix qui pourraient s'avérer, si de nouveau bah, on a un automne favorable, plutôt positif hein, pour le coup. Je clôturerai avec Solana qui, pareil, on l'avait vu il y a à peu près 15 jours de ça sur le ratio sol ETH. Je vous avais dit que bah, potentiellement on avait un retournement en cours après une très très grosse poussée très frénétique du côté d'Ether qui a laissé quasiment personne rentrer dans ce train des 1380-1400$ jusqu'à quasi 5000$. Et là aujourd'hui, on a un Solana qui est en train de reprendre de la force, notamment face à Ether. Et donc aujourd'hui, pour Sol, à 220$, on a la zone de confluence autour de 250-260. Et Dieu seul sait si on break cette zone, jusqu'où Solana pourrait accélérer. Ceci étant dit, quand on rentre à 220, quand bien même on se dit, allez, un jour on verra Solana à 300$, ça fait une performance de 35-36%. Donc vous voyez qu'on est très loin, à la fois des rendements qu'on a eu sur ce cycle où Solana nous a d'ores et déjà fait 2700%, et des rendements qu'on a pu avoir par le passé, que ça soit en 2017 ou en 2021. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, on se retrouve pour l'analyse patrimoniale avec un nouveau profil qui, j'espère, vous plaira. Et le lendemain, on se retrouvera pour l'analyse donc on-chain avec Crypto Sapiens. Et là aussi, je sais que vous êtes de plus en plus à apprécier ces analyses qui sont à la fois compréhensibles par rapport au on-chain, très bon vulgarisateur, et il nous apporte à chaque fois une profondeur qui est remarquable. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.